Les pieds sur terre. Sonia Kronlund.
Le lundi 3 mars au matin, alors que les élèves du prestigieux Institut d'études politiques de Paris, dit Sciences Po, s'apprêtent à rentrer de leurs vacances d'hiver, les personnels d'entretien, eux, cessent de travailler. Ils ont déposé un préavis de grève illimité pour dénoncer leurs conditions de travail que certains jugent proches de l'esclavage. 77 personnes sont ainsi chargées de nettoyer 12 bâtiments distincts et 60 000 mètres carrés de surface fréquentés par 10 000 étudiants. Les personnels se retrouvent rue Saint-Guillaume devant le bâtiment historique, puis se déplacent vers l'entrée du campus flambant neuf de la rue Saint-Thomas d'Aquin dans le 7e arrondissement de Paris, qui vient au passage d'être rénové et modernisé pour 188 millions d'euros. Pourtant, ici, seule une dizaine d'agents ont des emplois à plein temps, les autres cumulent, se lèvent à l'aube et travaillent à des rythmes de plus en plus élevés puisqu'il faut faire le même travail avec de moins en moins d'agents. Ils réclament un 13e mois, une prime de vacances, une prime salissure et surtout la baisse de leur cadence en réintégrant les emplois, donc les heures qui ont été supprimées. 5 jours de grève, 5 jours de casserolades, de slogans et de solidarité étudiante dans le quartier le plus cher de Paris et peut-être de France, là où on forme les élites de la nation. On commence par se soucier de ceux qui travaillent à nettoyer nos locaux. Un récit tout de suite recueilli par Mariem Cissé.
Je m'appelle Latifa, je suis Madame Kateri Latifa, mais tout le monde m'appelle que Latifa. J'ai 50 ans, je suis une mère de famille célibataire. J'ai une fille qui a l'âge de 27 ans, qui est en train de faire ses études encore. Je travaille dans le milieu de nettoyage, je suis agent de service et mon statut, c'est chef d'équipe. Je m'occupe d'un bâtiment à Sciences Po qui s'appelle le 13e Université. Je suis là-bas depuis 2007, depuis l'ouverture de ce bâtiment. Alors moi, je suis marocaine. J'ai quitté le Maroc en 1999. Je suis venue avec mon ex-mari. On était mariés pendant 5 ans et à la fin, on a décidé de venir. Ma fille, elle avait à l'époque 2 ans. Quand je suis arrivée avec mon mari, ça a été le premier mois. Et après un an, je me suis séparée de lui. Et j'ai pris ma vie et ma fille en main. Parce que pour s'occuper d'un bébé tout seul, et en plus dans un pays que tu ne connais pas, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas quel travail tu vas faire. Il faut des diplômes, j'en avais pas parce que j'avais quitté l'école quand je me suis mariée. Le nettoyage, c'était le seul moyen pour arriver à trouver un logement, de quoi manger, de quoi vivre. Mais le problème, c'était garder la petite. Moi, dans mon cas, alhamdoulilah, j'avais trouvé ma famille qui n'était pas loin. Et c'est là que j'ai commencé, parce qu'il fallait apprendre déjà le nettoyage industriel, parce qu'on sait nettoyer à la maison, mais on ne sait pas l'industriel. Même les noms des balais, les noms des matériels, il fallait apprendre de tout. Et le premier pensée quand j'avais le premier jour, c'était « Ah, qu'est-ce que je fais ici ? Est-ce que je peux y arriver ?» Mais après, voilà, on se donne le courage, on fonce, on met la tête dans le bain et après on nage, quoi. Je me suis noyée plusieurs fois pour arriver là où je suis là maintenant, dans le nettoyage. On ne peut pas travailler juste à temps plein dans une société parce que le salaire, il est trop, trop bas. Ce qui fait, même si tu as 151 heures, il faut que tu ajoutes du travail pour tenir une famille. Moi, je travaille presque 14 heures par jour et ce n'est pas que mon cas à moi, c'est le cas de tout le monde qui travaille dans le nettoyage. Il faut qu'on travaille en plusieurs entreprises, plusieurs endroits. Et des fois, on sort de 6 heures, on rentre chez nous qu'à 21h, 22h du soir, à la maison. Avant Sciences Po, j'avais travaillé dans les écoles, dans les crèches, mais pas dans les universités. C'est un peu différent. C'est un mélange entre salariés, étudiants, profs, administration, qui sont là tout le temps. Et c'est plus sale que quand tu gardes des enfants. Les enfants, ils sont surveillés par les maîtres. Tu ne trouves pas beaucoup de saleté. Mais eux, ils sont adultes, tu ne peux pas les surveiller. Des fois, tu as des trucs qui choquent. Et tu dis, quel âge est là? C'est la phrase qu'on dit tout le temps, quel âge est là? Mais aussi, il y a des gens qui sont sympathiques, tu parles avec eux, des étudiants qui nous respectent. Franchement, ils nous respectent beaucoup. Et on les respecte aussi parce qu'on dit ça, c'est notre avenir qui est là, c'est nos enfants. Un étudiant qui nous arrête, il me dit merci pour le nettoyage que vous avez fait. Plusieurs fois, ça nous arrive. Et heureusement, ils sont là parce que ça nous remonte le moral chaque fois. On les voit courir, surtout les premières années, les premiers mois, ça fait très rire. Chaque fois, ils sont perdus. Des fois, on voit des trucs qui rigolent et des fois, voilà, on les voit pleurer. Donc, quand ils sortent des examens et tout, ça nous aussi, on est triste pour eux. J'ai une étudiante à la maison, alors je sais comment ils sont stressés. Et franchement, un dérapage de quelqu'un et tout, on le pardonne tout de suite parce qu'on sait très bien qu'ils ont... Soit ils n'ont pas dormi, soit ils sont stress avec leur cours et tout. Et ça, vraiment, on le comprend. Moi, je commence à 6h et finis à 13h. On commence ma journée dans le bus de nuit. Parce que dès que tu sors à 5h, bah, tu prends le bus de nuit, il n'y a pas de métro. Pour arriver, on commence ici à préparer déjà le matériel des salariés, s'ils ont tout, le produit, des sacs poubelles, des chiffons. On regarde le planning, quelle salle on peut commencer vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'ai des bureaux, j'ai des WC, j'ai les escaliers, j'ai le pôle santé, j'ai le rez-de-chaussée à faire avec les collègues. Ici, il manque quelqu'un, bah, on est obligé de faire aussi le travail de la personne qui n'est pas venue. Mais les salariés, la plupart du temps, même sont malades, ils sont là. Parce que si on arrête, on a de carence, presque 4 ou 5 jours de carence. Et pour nous, une semaine sans salaire, c'est une semaine de galère. Alors, c'est pour ça. Les gens, même sont malades, la plupart du temps, ils viennent. Pour une salle de cours, on passe, déjà, on nettoie toutes les tables, les chaises aussi. Parce que des fois, les étudiants, ils mangent ou ils laissent des trucs sur les tables. Après, on balie et après, on lave parce qu'il y a les tâches des cafés tout le temps. On nettoie les plinthes, les bureaux de profs et désinfecter les poignées. Ça veut dire une salle complète. Ça prend 10 minutes de nettoyage là-dedans. On nettoie ça tous les jours. Chacun fait, par exemple, 4 ou 5 salles ou 10 salles. Ça dépend combien dedans sur l'étage. Il faut courir parce qu'on n'a pas assez de temps et les étudiants ils rentrent à 7h45. Alors, on a de 6h à 7h45 pour faire toutes les salles. À Sciences Po, il y a beaucoup de salles de cours. À Saint-Thomas, on a je ne sais pas combien de salles. Ça dépasse les 100, je crois, ou 80. On n'a jamais compté parce que chacun il prend sa place et après, il fait. On est saturé. Déjà, on est juste, quoi. Je ne sais pas le mot, parce que... Mais on essaie d'arriver, on fait notre mieux. Le salarié, il donne son maximum. La grève, c'était parce qu'on avait marre de changer de société chaque fois. Moi, quand je suis arrivée, il y avait des gens, ils avaient 30 ans, 25 ans ici à Sciences Po, qui étaient avec d'autres sociétés. Parce qu'on a une convention dans le ménage, un protocole comme quoi, dès qu'il y a une société d'un prestataire qui arrive, il prend les salariés comme ils sont. Ça veut dire, s'il trouve 20, il prend les 20. S'il trouve 100, il prend 100. Et nous, pour eux, on est des matricules. Les sociétés de ménage, quand il y a l'appel d'offres, ils présentent leurs chiffres. Et Sciences Po, les donneurs d'ordre, ils choisissent le moins cher, évidemment. Et le patron qui arrive pour arriver à ses comptes, il est obligé de retirer des gens. Moins de salariés, ça veut dire beaucoup plus de travail pour les autres. L'appel d'offres, pour nous, les salariés, c'est un enfer. Le pire qui nous arrive, c'est ça. Parce que dès que tu retires un salarié, même si tu retires un seul, on va encore galérer encore le matin. Et le matin, on n'a pas le temps. On ne peut pas. On arrivait déjà à bout, là. On ne peut pas faire plus. C'est pour ça, c'est quand on a entendu qu'il y a l'appel d'offres, tous les salariés, ils avaient peur. Et c'est là que le syndicat a bougé, elle voulait parler avec Sciences Po. Sciences Po, elle voulait même pas nous écouter, elle nous dit « Vous n'êtes pas de salarié de Sciences Po, vous êtes salarié d'Atalian. Vous discutez avec Atalian. » C'est pas normal. Nous, on est là quand même, on est 80 salariés aussi. On est là depuis 30 ans. Et il y en a qui ont 18 ans, il y en a des 20 ans. Et on a même plus anciens que des salariés de Sciences Po qui viennent d'arriver, qui nous donnent des ordres, Tu veux moins cher, je comprends, mais on demande juste que la société qui arrive interdit qu'elle retire des salariés. C'est ça qu'on a demandé. On n'a pas demandé d'autre chose. Personne ne veut écouter. C'est là qu'on a dit non, stop, on ne peut pas. Là, c'est bon. On a fait une réunion, on a tous voté pour qu'on fasse un mouvement. Et on l'a fait jeudi. Nous, salariés, on est venus, comme d'habitude, à 6 heures. On était là. Après, le syndicat CFDT, ils sont arrivés. Les étudiants commençaient à venir vers 7h15, comme ça. Et ce qui nous a choqués, c'était les gens de la sécurité qui étaient... Et on avait beaucoup. Et après, voilà, quoi. Il y avait les policiers. Mais les policiers ne nous ont pas interpellés, ni rien, parce qu'on était dans tous nos droits. On n'a rien fait de mal. Les étudiants nous soutenaient tout le temps. Ils étaient toujours là avec nous dans le mouvement. Ils ont fait une quête pour les salariés. Et franchement, les étudiants, ils étaient un grand secours pour nous. Personnellement, ça m'a touchée, vraiment. Tout le monde nous soutenait. Les salariés de Sciences Po qui nous ont soutenus, c'est vrai. Mais c'était pour nous, c'était bien de dire oui, regarde, ils nous voient. Parce qu'eux, ils arrivent à 8 heures. Ils voient le bureau est propre, aux salles. Mais par contre, ils ne voient pas le salarié. Là, ils ont vu. Les 80 personnes, ils les ont vus à la porte, en train de crier. On reste là et on est là. Et c'est là, il y avait même des rencontres entre les étudiants et les salariés. Les salariés de Sciences Po nous posaient la question, vous travaillez ici depuis quand? Des collègues, ils leur posaient comme ça les questions. Et pourtant, cette personne-là, elle fait son étage. Et après, on est venu tous les jours, comme on vient travailler, de 6h jusqu'à 9h. Et après, on a continué jusqu'à mardi, jusqu'à ce qu'ils avaient décidé qu'il y avait une réunion entre les délégués syndicaux et les donneurs d'ordre. Et voilà. La solidarité entre salariés de ménage, ça m'a touchée beaucoup. Parce qu'on est de Sri Lanka, on a des Philippines, on a des Arabes, du Maroc, de l'Algérie, on a de l'Afrique. De tous les pays, je ne peux pas vous dire, on est des Brésiliens. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de nationalité. On avait tous peur pour notre pain. Et c'est tout. Tout le monde rigolait ensemble, tout le monde souriait ensemble. C'est là qu'on voit quand il y a un problème, qu'on a mis la main dans la main, c'est là qu'on a obtenu bien cause. Ce n'est pas que quelqu'un tire droite et à gauche.
Je m'appelle Thomas Sepúlveda, je suis chilien brésilien. À 18 ans, je suis parti en France, à Sciences Po, à Poitiers. Et là, ça fait depuis août que je suis à Sciences Po, Paris. J'ai senti une attitude générale assez différente de ce que j'aurais pu voir à Sao Paulo ou à Poitiers, dans le sens où ça se voyait, là, c'était vraiment les élites en formation, un truc beaucoup plus sérieux. Déjà dans la manière dont les gens s'habillent, dans la manière dont ils parlent et tout, on voit déjà une différence où c'est plus professionnel, un peu comme les enfants quand ils s'habillent avec l'événement du papa. J'avais l'impression que c'était un peu ça parfois, à la recherche d'opportunités pour l'avenir et tout. Un peu shark peut-être, requin, c'est un mot qu'on utilise beaucoup. LinkedIn aussi, c'est un autre mot qui vient à l'esprit. Tout le monde a LinkedIn et ça m'avait pas mal choqué. Et du coup, je pense que c'est un peu pour ça aussi que j'ai commencé à chercher des espaces avec des gens peut-être qui pensaient un peu plus que moi ou qui étaient intéressés par des problématiques similaires à moi. Et là, très vite, j'ai rencontré le collectif Julien. C'est un collectif étudiant actif sur le campus depuis 3 ans qui est engagé dans la question des conditions de travail des travailleurs essentiels de Sciences Po. Ça a commencé plutôt dans une optique un peu même plus naïve, de juste vraiment rencontrer les gens, faire le lien, d'où le nom, entre toutes les différentes communautés, et en particulier les communautés de travail à Sciences Po. Le personnel de ménage, de sécurité, du Crous. Et vite, très très vite, en fait, en faisant ce lien, ils se sont rendus compte, ah, mais il y a des conditions qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Et ça a très vite aussi pris cette dimension un peu plus plaidoyer, de vraiment répandre ses doléances et la ramener auprès de l'administration. Je ne me souviens pas de la première fois que j'ai été confronté un peu à la question du droit de travail, des conditions de travail du ménage à Sciences Po, mais j'avais déjà entendu tous ces noms, Leila, Patricia, Latifa. La première fois que je les ai vraiment rencontrés, c'était justement au petit déjeuner. On fait beaucoup de petits déjeuners au cours des semestres, où en fait, 8h du matin, les travailleuses et les travailleurs, ils sortent de leur shift et ils vont prendre le petit déjeuner avec des étudiants. Ils ramènent de la bouffe, nous on ramène de la bouffe, c'est très sympa, de 8h à 10h du matin. Et très vite, en fait, comme je disais, moi je suis moitié brésilien, je rencontre Patricia, qui est la brésilienne, et vraiment, on rigole, on fait des blagues. Elle dit souvent que je suis un brésilien très timide. C'est le côté chilien, je dirais. Mais je fais ces rencontres-là, et c'est des gens cool avec qui tu veux parler, avec qui tu veux prendre un café. Et moi, ce qui m'avait plutôt choqué, en fait, c'était la masse de gens qu'il y a. 77 agents d'entretien. Tu les vois jamais. Vraiment jamais, jamais. C'est beaucoup de gens qui sont juste invisibles. Invisibilisés, plutôt, en fait. Cette séquence qu'on a vécue, moi, je dirais que ça commence fin novembre, début décembre, où, en fait, on apprend que Atalian, l'entreprise du ménage, va quitter le marché parce qu'ils disent qu'ils n'arrivent pas à faire assez d'argent et que ça a impliqué un appel d'offres en mars. Le mot grève n'était pas non plus présent depuis le début, mais il commence à avoir des réunions. C'était un mardi dans les vacances de novembre, ouais, où ils ont eu une réunion avec toutes les travailleuses et les travailleurs. Et nous, on est allés avec 3 étudiants. On a pris des notes. Et je me souviens du moment où on commence à se rendre compte que, ah ok, ça va aller loin quand même. Parce qu'on se rend compte que, ils commencent à dire, c'est l'opportunité parce que c'est pas normal. Et vous avez le droit à ça. C'était les dirigeants syndicaux qui faisaient ces discours. Leila et Mohamed. Il faisait froid encore, c'est le matin, en vacances, donc il n'y avait aucun étudiant dans le campus. Il y avait une petite ambiance un peu de meeting à la fin où Mohamed ou Leila disaient quelque chose, quelqu'un répondait « Ouais, c'est pas normal » et tout. Et ils commencent à dire aux travailleuses et aux travailleurs que la CFDT comptait faire des demandes et se mobiliser si ces demandes n'étaient pas respectées. Et ensuite, il y a un courrier qui est envoyé vers l'administration. Pas de réponse, pas de réponse. Et c'est en février que ça reprend à balle un peu parce que le préavis de grève est déposé pour mars. Et quand le préavis de grève est déposé, au collectif, c'était un peu oh, les alarmes, ok, vas-y, faut aller à fond là, maintenant. On lance la pétition sans nécessairement parler de grève au public étudiant ou au public plus largement, mais dans cette idée d'un peu déjà que les gens soient au courant. Arrive le moment de jeudi 6 mars où la grève commence. Je sors du métro Save Babylon, je commence à me rapprocher. On avait déjà fait des pancartes, on avait déjà préparé un peu qu'est-ce qu'on allait crier, les chants, avec nos mégaphones. Et je commence à entendre des cris, des bruits de métal et tout. Je me dis, ça a commencé. Et je tourne la rue, je dis, waouh. En fait, c'était les 77, là, tous pressants. Et les gens commencent à arriver, et ils commencent à arriver, et ils commencent à arriver. Et on commence à se rendre compte, ok, les gens sont vraiment un peu derrière ça. Ils soutiennent quand même. Et ce qui est bien avec les étudiants à Sciences Po, c'est que tout le monde connaît quelqu'un. Donc très vite, il y a eu François Ruffin, très vite, il y a eu tous ces médias même, parce qu'il y a eu tout le travail aussi médiatique de notre part, de contacter des médias. On disait dans les assemblées générales, vous connaissez tous quelqu'un, arrêtez de faire genre que vous n'êtes pas des étudiants à Sciences Po qui font un stage à l'Assemblée nationale. Non, vous avez les contacts, donc mobilisons les contacts. Et ça restait, mais en majorité, un truc des travailleuses, mais qui était soutenu et au moins visiblement soutenu par des étudiants. Et c'était encore une fois ce qu'on voulait faire depuis le début au collectif, une instance de rencontre. C'est toujours assez dur de mélanger ce demande étudiants et travailleuses, mais la plupart des travailleuses, la plupart des travailleurs, ils sont tellement catcheurs, ils ont tellement parlé, ils ont tellement discuté, ils ont tellement une aisance aussi, que très vite aussi on a vu beaucoup de gens parler avec eux dès ce matin. Et ça commence à devenir très festif. Et on faisait des rythmes, ça dansait un peu, tout le monde riait, on rigolait. C'était très incroyable leur capacité d'organisation. Et ça se voyait, c'était une logique très différente à tout ce qui avait été fait dans les mobilisations étudiantes. Parce qu'en fait, on va à Saint-Thomas. Et en fait, je sais pas comment, mais on rentre à Saint-Thomas à un moment. Et on fait du bruit. À un moment donné, on a rénommé l'amphithéâtre Émile Boulmy, l'amphithéâtre un peu historique de Sciences Po. On a rénommé l'amphithéâtre Latifa. Et je me souviens le moment où on a pris la petite photo de Latifa avec son amphithéâtre derrière. Toutes les vidéos qui ensuite ont fini par circuler dans l'ASO de Fofana qui parle, Latifa qui parle, à Lima, à Mediapart. Tout ça, c'était ce jour-là, jeudi, à Saint-Thomas. On ignorait tous un peu quel niveau de mobilisation et de soutien ça allait réussir à consolider. Bah, très vite, on a capté, ok, beaucoup, beaucoup de soutien et beaucoup de mobilisation, visiblement. La grève, elle a duré, donc, jeudi, vendredi, le week-end, lundi, mardi. Donc, 4 jours, un week-end aussi. Beaucoup de la mobilisation, en fait, elle a lieu le matin, à partir de 7h, en vrai. Parce que après 10h, en fait, même les travailleuses, elles doivent aller travailler, elles doivent aller dans leur deuxième emploi. Ce qui était une problématique pour la grève, parce qu'on voulait faire le piquet de grève, on voulait que ça dure, on voulait que ça soit présent. Mais en même temps, on se disait, mais comment on fait pour garder une présence? Et on a réussi justement avec le soutien d'étudiants. On a réussi parce que on avait déjà fait suffisamment de bruit pour qu'il y ait beaucoup d'étudiants, beaucoup même de gens, un peu parfois de personnel qui était dans leur temps libre, qui pouvaient passer. Et à partir, je pense, des 10h30, en fait, ça commence à derrière plus cette présence-là qui est majoritaire. L'administration, elle aurait pu laisser les cours se dérouler. Les gens qui étaient là, c'était des gens, des travailleuses qui sont là tout le temps. Donc en fait, il n'y avait pas non plus un danger posé pour les étudiants. Mais pourtant, l'administration a décidé d'annuler les cours samedi et lundi parce que les conditions n'étaient pas là pour faire le cours. Et là, c'était juste incompréhensible. En fait, pourquoi ils faisaient ça? Nous, on savait que, en grande partie, c'était pour faire le ménage, probablement. Parce que même vendredi, les poubelles débordaient, les toilettes étaient bouchées, des mégots de clopes partout. C'est dégueulasse, ce campus. Et en fait, je pense qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas montrer ça parce que c'était rendre visible l'importance du travail, d'un côté. C'était aussi ternir l'image d'excellence de Sciences Po, d'un autre côté. Donc, ils ont opté pour fermer. Donc, on se dit que lundi, ben, on ne sera pas là. Les travailleuses font le piquet de grève quand même parce qu'elles voulaient avoir cette présence même pour montrer que ce n'est pas que quand il y a des étudiants, quoi. Et nous, on se prépare alors pour mardi. Et on arrive mardi, donc matin, et on est là et l'ambiance est très différente parce que les travailleurs allaient avoir une réunion et comme c'est quand même un syndicat, c'est la CFDT qui menait tout ça, bah, ils ont donné l'ordre d'être plus calme, plus tranquille. Et vers la fin, vers 10h, Leïla appelle les gens présents pour informer que la grève était levée, que 2 revendications avaient été données. Le 13e mois, qui allait être octroyé progressivement, c'est inédit quand même, c'est un acquis historique qui n'est pas du tout la norme dans beaucoup de milieux. Et aussi la mise en place d'une commission pour évaluer le nombre d'heures et les qualifications de chaque travailleuse et chaque travailleur. Et tout le monde commence à applaudir, tout le monde commence à sourire. J'ai fait des câlins, mais à la moitié de la terre, je crois. On était vraiment très très contents, je me souviens, il y avait une madame qui m'a dit « Toi, depuis le début, je fais un câlin, viens là !» C'est très joyeux, vraiment très très joyeux. Mais très vite, en fait, il y a eu le moment où vous faites « Mais ça veut dire quoi, cette commission ?» Juste, la commission, en fait, elle était assez troublante. Faut faire confiance, faut accompagner le processus, mais aussi, il faut rester vigilant. En toute honnêteté, je pense que toutes les 4 jours de grève, c'était vraiment très émotionnel, quand même. À chaque moment, je suis en train de prendre la main de gens du collectif et dire « Ah, mais ça, c'est en train de se passer, en fait. » Parce que moi, je sens vraiment ça. On a accompagné de gens que pour eux, probablement, c'est un truc de très beau. Et ça, la beauté de tout ce qui s'est passé, ça se voit de l'extérieur. Ça se voit encore plus quand t'es un étudiant qui est un peu entre ces deux positions. Patricia, elle m'a dit quelque chose mercredi dernier, à la fin de la grève. Elle m'a dit « Mais tu te rends compte, ce matin, tout le monde m'a dit bonjour Patricia. » Waouh. tout ce qui s'est construit dans ces 4 jours qui étaient hyper intenses, tous ces gens-là qui ont rencontré, par exemple, des travailleuses, qui ont fait connaissance de même cette problématique au plus large, bah, ces gens-là, ils veulent encore voir les travailleuses, par exemple. Ils veulent encore parler avec elles. L'empathie reste forte, la solidarité reste forte. Donc on s'est dit que la mobilisation en soi n'est pas finie, on va profiter de ce moment, de ces pics qu'on a eu d'attention. Et que si jamais ça arrive de nouveau, ben, il y aura de gens là, même peut-être plus que la dernière fois. Ce qui s'est passé, c'était un tournant.
La grève, ça nous a permis de faire entendre notre voix. Vous ne voyez pas, mais on est là quand même. C'est nous qu'on vous donne une image. L'image de Sciences Po, ce n'est pas juste la qualité des études. C'est aussi la propreté du lieu. Un place qui n'est pas propre, qui n'est pas nette, tu n'arrives pas à étudier. Ça veut dire que les étudiants qui sont là, c'est grâce à nous qu'ils sont là. Les salariés de Sciences Po qui sont là, c'est grâce au service de nettoyage. Et la preuve, quand on a fait grève, on n'a pas travaillé, personne n'a travaillé. Les portes, elles étaient fermées. Ce n'est pas parce qu'on avait été, comme ils ont dit, qu'on a cassé ou un truc comme ça. Non, c'est parce que tout était sale. Même nous, ça nous a fait mal au cœur de voir nos locaux qu'on les nettoie tous les jours, qu'on prend soin comme notre maison, et les salles comme ça. Regardez, quand nous, on n'est pas là, comment l'état de lieu il est ? Comment il est ? Vous ne pouvez pas gérer ça. Nous, par contre, on le gère. On le gère très bien. Mais par contre, il faut donner les moyens. Ah oui, mais c'est que du ménage. Mais ce n'est pas que du ménage. C'est du ménage. C'est du nettoyage. C'est la réputation. On ne peut pas bâcler dans une université renommée comme Sciences Po. Vous savez, chaque salarié, quand il travaille, il me dit, moi, c'est ma réputation de salarié de ménage, je vais donner une bonne présentation à ma personnalité dans mon travail. Et quand un salarié te dit ça, c'est quelque chose d'énorme. Tout ce qu'on demande, c'est de respect et un peu de dignité. Et quand je rentre chez moi, ben, j'arrive à dormir parce que j'ai fait un bon travail. Mes collègues, ils sont là. Ma famille, elle va bien. Ça, c'est le bonheur pour moi. Je ne cherche pas à faire des châteaux, faire des voyages de folie. J'ai une vie simple, comme tous les gens. Qu'elle soit avec une bonne santé et une bonne ambiance, surtout. Ça donne envie de revenir le lendemain pour travailler. C'est ça.
C'était Les femmes de ménage font plier Sciences Po, un reportage de Mariem Cissé réalisé par Sylvain Richard. Merci à Latifa Katiri, à Thomas Sepulveda, à Laila Mabrouk, à Alimata Fofana, à Patricia et son équipe, à Noé Amiel et à Souria Théodin. L'attaché de production des Pieds sur Terre, c'est Valentin Rémy et notre stagiaire, c'est Luce Mourant.
Chers artistes utopiques,
celui ou celle qui trouvera ce carnet
ne sera pas hors de danger.
Dès qu'on entend les mots « journal intime », ça sent l'encre turquoise et le repli sur soi. Mais si on crochète les verrous dorés, on trouve un trésor. Le grand 8 émotionnel de nos vies ordinaires.
Mercredi 29 juillet, première rencontre avec les Khmers Rouges.
Il n'y a personne qui a des sentiments aussi violents que les miens.
J'ai 17 ans et j'écris pour changer le monde.
Le journal de ma vie, une série Les Pieds sur Terre d'Adila Benedjaizou et Clémence Gross. Retrouvez tous les épisodes sur le site de France Culture et l'application Radio France.